Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast où on va échanger avec aujourd'hui un nouvel invité sur l'actualité de la semaine écoulée et on va se baser pour tout ça sur la Distill News intitulée Distillation et tourbe bas carbone qui a été envoyée ce dimanche 12 mars. Et donc pour ceux qui découvraient le podcast à cette occasion, je suis Frédéric Roginska, je suis distillateur consultant et éditeur donc de cette newsletter et je serai accompagné aujourd'hui de Fabrice Jarlot de chez Rémy Cointreau qui va m'aider à commenter tout ça. Hello Fabrice.
Bonjour Frédéric.
Donc voilà, peut-être tu peux te présenter en deux mots.
Je me présente, je suis Fabrice Jarlot, j'ai rejoint Rémy Cointreau maintenant un peu plus de 2 ans pour créer la filiale française de distribution directe de Rémy Cointreau, sur lequel on a intégré 6 des marques du groupe Rémy Cointreau. Donc les 6 marques, tu as Domaine des Hautes-Glaces, tu as Westland,
d'accord.
Tu as, auquel on va parler un petit peu tout à l'heure.
Exactement.
Tu vas avoir Belle de Briey, tu as Champagne Telmont, tu as Louis XIII et tu as Saint-Rémy en brandy.
Ok. Donc ça, j'imagine, c'est plutôt distribué outre-Atlantique, ça, non ? Saint-Rémy.
Oui, c'est le brandy, on va dire que la culture brandy française est assez limitée.
Ok.
Donc plutôt international, très marqué.
Ok. Parfait. Eh bien, écoute, maintenant qu'on a contextualisé, je te propose qu'on attaque direct.
Allons-y.
Avec donc, cette petite newsletter, donc distillation et tourbe bas carbone, avec une première actu alors, qui concerne Pernod Ricard Allemagne et qui, en fait, qui visiblement est très actif dans les RTD et qui va lancer donc, son apéritif Lillet en format bouteille, c'est à 10,5 degrés d'alcool, je crois. Et donc, il y aura un Lillet tonique et un Lillet berry. Voilà, donc RTD qui est très tendance. Je ne sais pas si Rémy Cointreau est très, très actif dans le sujet, mais...
RTD, non. Pas à l'heure actuelle. Je te dirais qu'après, c'est... des projets, je pense qu'il y en a beaucoup. Est-ce que ceux-là sont tenus ? Pour l'instant, non. Mais c'est vrai que le RTD a l'air de beaucoup, beaucoup se développer à tout niveau, que ce soit cocktail ou là, des choses un petit peu plus simples, entre guillemets, assez faciles à consommer. Mais ça a l'air plutôt... je trouve que le RTD est plutôt sympa.
Ouais, moi, j'étais très sceptique avant le Covid sur tout ça. Et depuis le Covid, je fais, mais c'est... C'est une évidence, en fait, pour moi aujourd'hui. Et alors, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que donc on est sur Pernod Ricard, qui est quand même un groupe français. On a Lillet, qui est un apéritif français. Et en fait, on voit que ce genre d'expérimentation est sorti en Allemagne et en Autriche d'abord. Peut-être que ça ne verra peut-être jamais le sol français, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve intéressant. C'est comme Coca-Cola, je ne sais pas si tu as suivi avec Jack Daniels, qui a sorti... le Jack & Coke, ils l'ont sorti non pas aux États-Unis, ils l'ont sorti au Mexique pour démarrer. Ouais.
Ah ouais, donc
on dirait qu'ils font, les marques testent souvent ailleurs, quoi. Voilà. Donc,
ouais,
je ne sais pas si le marché français.
Ouais, mais je pense que c'est plus facile de tester à l'extérieur de ton pays national qu'à l'intérieur. Parce que tu vois, Lillet, il y a une grosse appartenance française, bordelaise. Et des modes de consommation, et on va dire que la France, tu m'arrêtes si je me trompe, enfin, n'est pas réputé pour être le pays le plus facile non plus pour lancer un produit.
Probablement.
Quelque part, à l'étranger, des fois, je pense que c'est plus facile de voir si ça fonctionne, si ça prend réellement ou pas.
Bon, après, je dis ça, il me donne finalement un peu tort, parce que je repense au fait qu'ils ont sorti, ils sortent en grande distrib leur Suze Tonic Zero et d'autres choses, donc bon.
Ouais.
Et c'est peut-être bon. Il y a peut-être que le Lillet est très tendance en Allemagne. En tout cas, voilà pour ce premier produit. On a ensuite du côté, c'est toujours chez Pernod Ricard, c'est Delmaguey qui sort un nouveau mezcal. Là, pareil, sur quelques États américains. Et ce que je trouve intéressant, simplement, c'est qu'il est un peu promu comme un mezcal accessible pour les gens qui ne seraient pas encore familiarisés avec la. Avec la catégorie.
Accessible, gustativement parlant.
Ouais, je sais pas. Mais a priori, peut-être qu'il est moins fumé, je ne sais pas, qui fait que... Bon. En tout cas, voilà, j'ai vu pas mal d'articles, il y avait le mot accessible qui revenait à chaque fois. À suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite ? Hop, Si mon clavier veut bien fonctionner. Ah bah tiens,
ah,
Westland. On parlait de Westland juste avant. Donc Westland, qui première news là, qui ont commencé à apparaître aux États-Unis sur le fait qu'ils allaient sortir donc un American Single Malt avec la particularité d'avoir d'être tourbé, mais pas avec n'importe quelle tourbe, puisque c'est de la tourbe américaine qui est située à peu près à 2 heures de route de Seattle. Donc Westland qui est basé justement dans l'Oregon. Non, l'État de Washington.
L'État de Washington, Seattle.
Ouais, Seattle. Et donc, à 2 heures de route, voilà, ils ont une tourbière. Et puis après, il y a toute une histoire aussi. On pourra peut-être développer ça aussi. Sur le fait que c'est de la tourbe qui est prélevée avec l'idée de ne pas dégager de gaz à effet de serre et tout. Il y a tout plein de problématiques liées à la tourbe. Oui. Mais voilà, comme tu es là, peut-être je te laisse la parole parce que tu es probablement le plus qualifié sur ce produit.
Non, en fin de compte, tu as donc Westland Single Malt américain, c'est une spécificité déjà au démarrage, parce que c'est un single malt qui a vu le jour il y a 12 ans à peu près. Matthew Hoffman, qui l'a créé, était le premier à créer un single malt américain.
Ouais.
Spécificité, c'est que Matthew explique aux Américains que tout n'est pas fait avec base de maïs. Lui, en fin de compte, s'est inspiré des bières craft, sur lesquelles, en fin de compte, ce qui a rapproché le plus pour parler de la céréale, c'était justement ces bières craft avec la torréfaction de l'orge. Donc, il utilise sur certaines de ses cuvées entre 5 et 6 céréales différentes avec des niveaux de torréfaction différentes pour avoir un côté aromatique. Il travaille énormément sur le côté local. Tout est fait sur l'État de Washington, donc à Seattle. Si tu prends Sulum, sur cette cuvée-là, on est sur de la céréale qui vient de Skagit, qui est la vallée bio organique par excellence, où même tous les fermiers qui font des légumes sont implantés là-haut. À peu près à, qu'est-ce qu'il me disait, c'est à peu près à 3 miles, 3 ou 30 miles de la distillerie. C'est vraiment ce côté préservation. Et donc, il voulait, comme il veut être sur ce côté local, vraiment au de Washington, il travaille depuis quelques temps, parce que c'est un petit cachotier, pour Solum, qui est le premier single malt américain, comme tu le disais, mais premier single malt américain 100% tourbé, avec de la tourbe américaine.
Ouais.
Donc, qui n'est pas le même côté aromatique que la tourbe écossaise, parce qu'il y a toujours
d'accord.
ce côté de localisation et ce côté terroir. Les spécificités, comme Matthew aime bien préserver côté nature, il travaille avec différentes choses, des fûts, il est beaucoup à la recherche de nouvelles aromatiques. En fin de compte, cette tourbe est prélevée en dessous du niveau de l'eau. Alors, tu vas me dire, bah, oui, d'accord, pourquoi ? Bah, c'est pour justement de limiter, en fin de compte, laisser la place aux tourbières, ne pas les appauvrir par le haut, parce que la problématique qu'on a pu voir dans différentes tourbières en Écosse ou ailleurs, c'est carrément les sédiments mettent extrêmement longtemps, entre guillemets, à se recomposer et à recomposer les tourbières, alors qu'en dessous de l'eau, en fin de compte, ça permet de ne pas avoir d'impact CO2 sur les tourbières et pouvoir les laisser ce côté végétal se développer et se régénérer. Donc c'est plutôt, on attend ça, nous on va l'avoir, la Matthew l'a lancé il y a quoi, je crois qu'il a dû la lancer ce week-end aux États-Unis. Nous on va voir ça la semaine prochaine, ça arrive dans les entrepôts. Donc début avril, on va pouvoir commencer à lancer Sloom 1. Donc comme tu le disais dedans, il y a à peu près 4000 bouteilles, il n'y en a que
144 pour la France. Il me semble avoir lu.
Donc petit volume, et ça fait partie des 3 éditions limitées qu'il fait au cours de l'année. Donc Sloom qui est sur ce côté tourbière avec une céréale de Skagit. Puis après 2 éditions limitées, une qui est colérée, qui est un travail sur des céréales sur lesquelles il travaille avec le Bread Lab, qui est à Seattle également, pour prendre les fameuses familles de céréales Golden Promise Promioté, par exemple, qu'on entendait parler il y a de nombreuses années pour ne pas le citer, Macallan, qui utilisait ces céréales-là au démarrage. On a tiré des variétés, travaille sur, par contre, des nouvelles céréales, il travaille sur 22 céréales différentes, pour les réintégrer et venir amener un peu le phylloxéra du whisky, c'est-à-dire travailler sur des aromatiques qu'on ne connaît pas.
Okay.
C'est-à-dire que toi, moi ou n'importe qui ne peut pas dire « Ah, j'ai déjà goûté », parce que ce sont des céréales qui ont été recréées et qui n'existent pas, donc on n'a pas de référent en termes de palais, et c'est plutôt très très intéressant. parce que très surprenant, donc il y a eu Choléré 1 l'année, alors, il y a 2 ans, l'année passée, parce qu'on est qu'au mois de mars, tu avais Choléré 2,
d'accord.
Qui va durer jusqu'à septembre, et on devrait avoir Choléré 3 au mois de septembre normalement, selon les arrivages de bateaux. Et la troisième édition limitée sur laquelle ils travaillent, pareil, dans des nouveautés, recherchent toujours de nouvelles aromatiques, c'est un Garryana. La spécificité, c'est que c'est lié une partie dans des fûts de Garry. Le Garry, d'accord, est un chêne qui est protégé aux États-Unis. Il proliférait en 1850. Ils sont servis énormément pour faire de la construction de la charpente, parce que c'est un bois qui est très, très résistant.
Très dur, ouais.
Maintenant, il est protégé. Matthew en a replanté 800 l'année dernière, qu'il ne verra jamais. Pourquoi ? Parce que ça met 150 ans à devenir adulte.
Ah, okay.
Et que comme c'est protégé, il a le droit d'en acheter à condition qu'il tombe de vieillesse au sol.
Okay. Donc,
généralement, il en achète un, il fait 30 fûts. Et après, il attend qu'il y en ait un autre qui veuille bien rendre l'âme et tomber au sol. Et ça amène un côté aromatique qu'on ne trouve nulle part ailleurs, entre guillemets, pareil, au lieu de garder les mêmes essences, lui, il travaille sur de nouvelles pistes.
Ok. Toujours est-il que par rapport donc à ce Solum, donc tourbe américaine, on vient de le voir, avec une donc qui est prise sous le niveau de l'eau, enfin bref, il y a toute une réflexion, et qui du coup s'inscrit vraiment dans cette réflexion qu'il y a actuellement, parce que je ne sais pas si tu as vu que au niveau écossais, il y avait une consultation actuellement qui avait été lancée justement pour interdire la vente de tourbe. Donc, on voit qu'on entend parler de pénurie de tourbe, on voit des consultations au pays même qui est renommé pour ça. Et c'est du coup très intéressant de voir que outre-Atlantique, il y a peut-être un nouveau sourcing qui se crée. Et avec déjà inscrit dans cette réflexion de comment le faire bien. Puis voilà, donc Westland, qui est donc pionnier sur la partie américaine single malt d'une part, donc je pense qu'on verra plus tard comment tout ça est inscrit de manière légale au niveau du Trade and Tobacco Bureau, là où je sais pas quoi. Yeah. Enfin bref, donc à suivre pour la catégorie, donc Westland qui, au-delà de simplement faire de l'American Single Malt, fait visiblement aussi de la tourbe, donc très très intéressant et très curieux de goûter. Donc dispo, on a dit début février potentiellement en France.
Début avril,
oui, pardon. Et qui d'ailleurs me fait réagir, c'est on vient de voir juste avant Lillet qui sort quelque chose qui est français, qui le sort en Allemagne. Et là, on a quelque chose d'assez limité, 4044 bouteilles, et qui va arriver en France. Donc, j'imagine avec une allocation toute petite, mais bon, c'est toujours cool.
Ouais, ce qui est la spécificité de Matthew, c'est que lorsqu'il fait les éditions limitées comme ça, quand il les sort à Seattle, il me disait, grosso modo, il vend 500 bouteilles le premier jour.
D'accord.
Parce que tu as plein de clients de Seattle, il fait des single casques, il fait plein d'autres choses qui ne sont pas présents pour l'instant. Parce que ça arrive, il y a des single casques qui arrivent en même temps. Il fait plein de cuvées qui travaillent depuis, qui ont des cuvées qui ont 7-8 ans.
Ouais.
Il en a fait une qui a un partenariat avec donc et Kraken, l'équipe de hockey de Seattle.
Ah oui, c'est vrai, j'avais relayé ça il y a quelques mois.
Lui a le droit de faire des sponsors.
Ouais.
Et très intéressant. Et en fin de compte, tu as l'Allemagne, Belgique, je sais pas, Allemagne, oui, France, sur lequel ils développent en fin de compte. La distribution de Westland pour faire découvrir sur le marché européen les single malt. Et moi, tu vois, il y a 2 ans, quand on avait fait le premier Whisky Live avec Matthew, je lui dis, mais moi, j'ai goûté, je ne connaissais pas. Westland, je ne connaissais pas du tout. J'ai goûté. Ça a sa propre ADN, sa propre identité, on va dire, dégustative. Et je lui dis, mais si tu as d'autres choses, moi, je veux bien avoir même ne serait-ce que 6-12 bouteilles, juste pour jouer, entre guillemets, parce que je sais qu'il y a des clients qui sont très intéressés. Je lui dis, mais ce que tu fais est super beau. Et en fin de compte, voilà, donc de là, et on est découlé qu'il développe un petit peu sur le marché Europe.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi une grosse clientèle single malt sur le marché. Ça peut être
marrant. Et puis, vu qu'on est sur une catégorie qui est naissante aussi, c'est bien de, même si c'est avec une dizaine de bouteilles, c'est bien de montrer qu'on est présent, qu'on fait partie de cette offre.
Ouais.
Et plus elle va se développer, plus il y aura de bouteilles. Donc, autant être là dès le début.
C'est clair.
Voilà. Moi, je te propose qu'on continue avec d'autres produits. Qu'est-ce qu'on a en stock après ? On a Springbank. Alors là, on change de registre dans la mesure où là, eux, ils sortent une petite collection d'édition limitée à 500 bouteilles. Bah, tu vois, on parlait de 500 bouteilles d'édition limitée pour commémorer les 200 ans à venir de la distillerie. Donc voilà, donc on est sur quelque chose de plus ancien pour le coup. Donc voilà, donc ça démarre cette année, 500 bouteilles. Il y aura une autre édition l'an prochain et ainsi de suite. Jusqu'à 2028, la fameuse année des 200 ans.
C'est une notion du tarif, non ?
Alors, je l'avais peut-être vu, je t'avoue. Je ne crois pas que c'était si cher que ça.
Ouais, parce que c'est beau, ce
mais, même. Mais il y a... Alors, il y a une petite subtilité, c'est au-delà même du prix, alors que du coup, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est que ça va être par tirage au sort.
Ah.
Donc, tu t'inscris sur leur site... Il y aura un tirage au sort, donc voilà. Donc j'imagine que c'est aussi peut-être le signe que ça ne sera pas non plus excessif.
Ouais.
Voilà, et que tout le monde aura sa chance quelque part. Voilà, donc Springbank. Ensuite, on revient. Comment ?
J'ai jamais été chanceux au loto.
Bon, il faut, faut jouer pour gagner, quoi.
C'est ça.
Petit retour aux États-Unis avec cette fois le fondateur de Whistle Pig, qui a donc sa marque qui s'appelle Bacta Spirit et qui est plutôt spécialisé. Alors lui, il rachète des stocks d'Armagnac, il rachète des fûts d'Armagnac qu'il ramène aux États-Unis et il embouteille tout ça. Il a fait l'an dernier un truc qui était assez inédit, je pense. Il avait mis de l'Armagnac, il avait fini dans des fûts de wow. Hardbeg, je crois, enfin des trucs tourbés.
Ouais.
Donc voilà, assez inédit. Et là, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il sort son premier whisky, le Bacta Bourbon, je sais pas quoi, 2013, et qui lui est fini du coup en fût d'Armagnac. Voilà. Donc on voit qu'il trouve plein de ressorts pour réutiliser les fûts qu'il a achetés.
C'est beau, puis les Américains aiment bien l'Armagnac.
Ouais. Bah là, je pense vraiment, c'est assez unique hein, pour le coup. D'avoir un embouteilleur américain comme ça qui, en plus, ils se vantent d'avoir récupéré, je crois, un fût de 1800 quelque chose. Voilà, ouais. Donc, bon.
Après, c'est prestigieux. Il y a eu beaucoup d'affinages écossais qui ont été faits autour des ex-fûts de vin, entre guillemets, que ce soit alors distillé ou pas, mais ça peut pas être mauvais. Hein.
Ben, je serais très curieux, ouais, effectivement. Ensuite, alors on change de registre cette fois avec les rums de Cède, qui Petit Tino, qui se lance dans la cachaça arrangée. Donc, on avait les rums arrangés. Petite nouveauté, là, c'est les tichassa, avec deux références, donc de cachaça arrangée. Ça titre, je crois, à 30 degrés d'alcool. Voilà, non, 36 degrés.
36 degrés.
Plus précisément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? On revient à Cognac cette fois avec Tessandier qui se met au vrac et qui propose toute une gamme justement de rhum, de cognac, de gin, de vodka en vrac avec du coup des bag-in-box et également des kits pour les cavistes, des kits de vente avec des bonbonnes. Donc voilà, donc Tessandier qui se... Je sais pas, je sais qu'il y a l'explorateur du goût qui fait ça.
C'est l'explorateur, c'est quelques-uns ils font. Maintenant, c'est vrai que c'est... je pense que ce qu'on a trouvé encore le support pour le faire, je suis pas certain.
Ouais.
Est-ce qu'on va le trouver ? Oui, parce que je pense que toutes les maisons commencent à travailler dessus.
Ouais.
Et tu vois, c'est plus facile de le faire comme ça en B2B. Ouais. Après, tu auras le B2C. Le B2C, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut que tu sois sûr que parce que vente professionnelle soit bien la marque qui vend, entre guillemets.
Ouais.
Sur les cavistes, c'est vrai que c'est alors, plus simple. Entre guillemets, c'est comment arriver, quel support tu utilises pour pouvoir faire les recharges, qu'il n'y ait pas de problème en termes d'hygiène, et ainsi de suite. Ouais, c'est des bibs, c'est ça qui fait...
Ouais, c'est des bibs et il y a bag-in-box, tout à fait. Et il y a aussi un kit, tu vois, de bonbonnes en verre de 6 litres.
Ouais.
Donc voilà, là, au robinet, avec, tu vois, t'as des kits de bouteilles de différents formats, les bouchons, les étiquettes. Bref, la totale pour embouteiller sur site, en gros.
De toute façon,
chez le caviste.
Ça va être ce côté, l'absence de packaging et les bouteilles ou les contenants réutilisables, c'est l'avenir.
Ouais. Bah, je vois clairement que ça se développe de plus en plus, notamment évidemment dans le monde du bar, où c'est vraiment une évidence quand tu vides des dizaines de bouteilles tous les soirs, d'avoir ne serait-ce qu'un format de 3-4 litres et tu re-remplis des bouteilles à la limite pour avoir ton back bar joli, quoi. Ouais. Mais ça fait sens. Après, effectivement, le côté distrib chez les cavistes, j'imagine, c'est un vrai challenge pour mettre le bon niveau, pour en termes d'inventaire chez le caviste.
Vis-à-vis des douanes. Parce que
ouais, voilà.
Tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Comme tu dis, le niveau. Si tu dis, non, mais moi, j'ai acheté 20 litres, j'ai vendu, je sais pas, 10 bouteilles.
Ouais, tu me dis, bah, oui,
mais je sais pas. Vous avez de la part des anges chez vous? Vous avez quelque chose? Donc, ouais, c'est tout ça ou pour l'instant c'est à Calais, c'est un peu.
Je voyais justement dans le communiqué de presse qu'il conseillait justement de toujours maintenir les bonbonnes à niveau pour limiter au maximum l'évaporation. Enfin, tu vois, il y a tout un process un peu pédagogique aussi à intégrer. Et effectivement, après, peut-être un casse-tête supplémentaire pour les douanes ou quoi. Enfin bref, à suivre.
On a un client qui a ouvert comme ça et en fin de compte, lui, propose des bouteilles plus beaucoup de vrac. Il y a des très très belles bonbonnes en verre.
D'accord.
Pareil, en fin de compte, tu y vas, tu fais de la recharge de ton produit, ainsi de suite. Après, je sais pas comment il a géré en termes de douanier, ainsi de suite, pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Mais ça se développe, voilà, ça se développe énormément, ce que tu disais sur les bars également. Nous, de par cette fin d'année, on avait des petits problèmes de verre et on a fait au démarrage du dépannage en bidon 5 litres qui est resté parce qu'en fin de compte, les bars nous disaient non, mais c'est super, ça nous fait moins de verre acheté, c'est plus écolo, c'est plus RSE. Enfin voilà, ça coche toutes les cases.
Ouais. En tout cas, à suivre clairement. Bon voilà, je pense qu'effectivement on est amené à le voir de plus en plus. Alors je pense clairement ça touchera pas par contre l'enjeu sera pas forcément, ce sera pas la marque en fait, hein. Clairement là-dessus.
Non mais t'as lié, alors quoi dans le bar, c'est quoi, c'est EcoSpirit, c'est ça non, qui fait les recharges?
EcoSpirit, ouais. J'ai vu, t'as une marque, t'as, comment il s'appelle, Belgnol qui a sorti une vodka no name,
ouais.
Pareil pour le CHR. Donc voilà, c'est là pour eux, ils ont clairement brandé le truc sur le côté. Bah c'est la marque un peu invisible qui va être servie, mais qui est là et qui sert à quelque chose, quoi.
Ouais, faut juste arriver à contrôler ça entre guillemets, qu'on se retrouve pas entre guillemets dans certains autres pays où t'as une bouteille et puis ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément ce qui est marqué sur l'étiquette.
Exactement. Bah, avec les bouchons là qui empêchent qu'on re-remplisse et tout.
Ouais. Ce serait dommage d'en arriver là.
Clairement. Mais alors, pour le coup, j'ai vu une news qui est liée à Bacardi récemment là-dessus, où justement ils arrêtaient de faire ce type de bouchon justement dans une logique de réduction du plastique. Donc au final, on a un peu tout qui se s'entrechoque.
De toute façon, tout le monde, de la logistique, du carton, de l'emballage, de la carafe ou de ce que tu veux, tout le monde travaille dessus pour voir comment diminuer son impact RSE, diminuer l'impact coût, parce que de toute façon, quand tu vois tous les coûts qui explosent dessus, tout le monde cherche, que ce soit la personne qui fait des cartons et des emballages, essaye de trouver des colles naturelles, essaye de trouver des appros en bois recyclé et ainsi de suite. Donc, on va trouver. Hein.
Ouais. Exactement. On va casser quelques œufs, mais c'est comme ça qu'on.
Ouais, c'est vrai.
Très bien. Bah, écoute, on peut enchaîner avec une autre. On revient au whisky, plus précisément maintenant, avec Moon Harbor qui a sorti un nouveau whisky, donc jeune distillerie, hein, qui date de 2016 ou 2017. Et qui sort maintenant, c'est des vrais whisky, et ils en ont donc un nouveau à base d'orge locale, enfin du côté de Bordeaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Franc-Tireur, distillerie Franc-Tireur, donc là, on est sur des petites structures, qui sort un new make, un pur malt, qui s'appelle Le Combattant. Ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que, donc on n'est pas sur whisky encore, hein, puisque ça n'a pas 3 ans d'âge, on est sur du 18 mois, il me semble. Mais je trouve très intéressant dans toute cette vague de whisky français qui se développe, c'est on peut être témoin en fait de la naissance de tous ces produits. Tu vois, on parlait de distilleries beaucoup plus anciennes avant, enfin je sais pas, de Springbank et tout. Va trouver un new make de Springbank du résultat final que t'as aujourd'hui, quoi.
Ah oui.
Ça va être compliqué. Mais là, on a toute cette catégorie qui naît et dont on peut voir progressivement les différents jalons se mettre en place.
Ouais, c'était marrant, tu vois, moi, de mon cursus, entre guillemets, ce qui est drôle, c'est qu'il y a encore quelques années, tu vois l'évolution, en fin de compte, des mentalités. Parce qu'il y a quelques années en retard, lorsque tu voyais ces comptes d'âge disparaître au fur et à mesure et avoir des new age, des non age arriver, où les gens disaient « Ah oui, non, mais moi, moins de 12 ans, je veux pas en boire. » Les mentalités ont beaucoup changé parce qu'en fin de compte, les gens sont aperçus que ce n'est pas forcément le nombre d'années qui donne ce côté aromatique ou pas, ou le travail qui est fait en amont. Et c'est plutôt bien parce que comme ça, toi, même sur le new make, on peut se faire plaisir. Comme on fera plaisir sur un whisky de 27 ans ou pas, c'est une question pas de goût. Mais il y a encore quelques années en arrière, tu sortais, je sais pas, un 3 ans d'âge, on disait que bah oui, mais non. Alors que maintenant, grosso modo, tu peux avoir des choses, même à un an ou un an et demi, qui sont extrêmement bonnes.
Ouais, ou même en Écosse, ça s'est beaucoup plus développé aussi par rapport à peut-être parce qu'il y avait moins de stock, des non-age statements, ce qui fait que ça devient moins l'enjeu. J'ai le sentiment aussi qu'il y a peut-être un peu plus de pédagogie, on réalise que les... ça dépend aussi du type de fût, enfin voilà, qu'il y a différents types de vieillissement. Là, on voit, enfin, je sais pas, moi qui ai une affinité avec le whisky américain, tu vois, l'enjeu, il est pas du tout sur l'âge, vu que t'es sur du fût neuf et tout. C'est un autre paradigme. C'est pas aussi la même météo, hein, tout simplement. Hein, quand tu vieillis dans le Kentucky ou quoi, c'est pas pareil qu'en Écosse.
Non,
donc,
c'est pas
Donc en fait, il y a tous ces... Et puis la France est un peu, je sais pas, peut-être au carrefour de tout ça. On fait du fût neuf, du fût vieux, du fût de vin, du fût... Enfin, bah tiens, le Mounarbourg avant, c'est le paradigme, c'est les fûts de vin, quoi.
Ouais.
Donc il y a... L'histoire, elle est ailleurs, quoi.
Je pense. Et puis chaque... Ce qui est bien, c'est cette complexité de chaque pays qui amène sa culture. Et tu peux retrouver ça, entre guillemets, dans le whisky ou dans tous les alcools qui sont faits, et c'est une belle balade. C'est un peu comme toi, une cuisine au restaurant où tu vas aller manger indien ou mexicain, ainsi de suite. Tu vas goûter un peu du patrimoine national, et là, tu l'as en fin de compte sur un spiritueux, que ce soit tout à l'heure, tu parlais du mezcal, qui sont des eaux de vie qui sont absolument splendides. Mais après, c'est comme tout, c'est qu'il y a des gens qui vont dire tiens, bah, je préfère, j'aime pas épicé, ou alors j'aime épicé, ou comme le vin, est-ce que tu préfères Bordeaux, Bourgogne, Languedoc, Sud-Ouest.
Ouais.
Voilà, c'est une question de bibliothèque et puis d'ouverture entre guillemets d'esprit, je pense, parce que c'est très très belle chose, quelles que soient les maisons.
Amen. Voilà, mais de toute façon, il y a plus. Moi, ce que j'observe depuis quelques années, c'est qu'il y a, de toute façon, il n'y a même plus de limite entre les catégories. Donc finalement, l'âge, tout ça, c'est...
Tout s'entrechoque.
Voilà, exactement.
J'ai l'impression que ce qui est bien, c'est que toi, tous les créateurs ou distillateurs se nourrissent l'un avec l'autre.
Ouais.
N'hésite pas à partager, alors qu'à une époque, bon, c'était un peu chasse gardée et ainsi de suite. Tu prends... Alors Mathieu, oui, parce qu'il a créé une association, maintenant c'est pratiquement 200 sur les single malt américains.
D'accord.
Tu prends Frédéric Révol sur Domaine de Haute Glace.
Domaine de Haute Glace,
beaucoup, ouais. Avec les autres distillateurs, et quand même maintenant ils sont un peu plus d'une centaine à faire du whisky français. Et tu vois, ils communiquent, ils échangent énormément, il y a beaucoup de partage, voilà, c'est comme dans le vin.
Ouais. Donc, ouais, puis il y a des... On s'échange les fûts, il y a un peu tout un marché qui se développe autour de ça. Voilà. Je te propose qu'on continue avec... on va revenir à Rémy Martin, tiens. Avec, hop, je monte ça, avec une nouvelle. Bon, là, c'est pas le produit qui est innovant, c'est plus c'est la bouteille qui est une édition limitée.
Non, mais c'est quoi?
Donc Rémi Martin qui fait des éditions, c'est la troisième, il me semble, de... bah oui, c'est écrit, Mixtape Volume 3. Donc on voit là, c'est... Moi, je suis toujours très friand là, de pouvoir découvrir grâce à Internet tous ces trucs qui se font outre-Atlantique ou outre-Manche, parce qu'on voit que c'est totalement débridé. Là, on est vraiment sur un autre univers. Pas du tout, c'est pas du tout le cognac que nous, on expérimente depuis la France, quoi. Et voilà, donc simplement une bouteille en édition limitée pour Rémi Martin avec des jolis clips vidéo animés, quoi.
Ouais, et c'est encore, comme tu disais, c'est encore plus frustrant quand t'es en interne parce que tu vois, moi qui fais du bar et ainsi de suite, quand je vois les pubs de Rémi Martin ou ainsi de suite, mais quand tu vois les spots, tu dis putain, mais c'est super et tu sais pertinemment que toi, tu ne la verras jamais parce que. Tu ne peux pas parce qu'on est naturellement que là qui nous interdit, mais en fin de compte, c'est là où tu vois aussi l'évolution parce que tu prends le marché, que ça soit asiatique ou américain, sur le alors, asiatique, on dira pas, mais américain, tu vois, sur ce côté cognac qui est extrêmement bu par des jeunes clients.
Ouais,
alors qu'en France, on reste quand même sur ce côté très cognac. Mal, ouais. Ah oui, non, mais alors c'est mon père ou mon grand-père qui buvait ce genre de produit. On n'arrive pas à s'en sortir. En plus, moi, je suis un grand amateur de cognac, mais depuis l'âge de 19 ans. Donc, c'est pas une question de vieux ou pas vieux. Et voilà.
Bon, on progresse, je pense, quand même, grâce au bar qui se développe.
Oui, non, mais t'en as. En plus, c'est travaillé, remis au goût du jour. T'as beaucoup de maisons de cognac qui se développent, et puis t'as vu beaucoup de maisons de cognac nouvelles, entre guillemets. Hein. Mm. Et c'est vrai qu'après, le marché français reste tout petit.
Ouais, c'est 95% ou 98% qui part à l'export de mémoire.
Je pensais entre 2 et 5 selon les années, et ainsi de suite.
Voilà, donc c'est clair. Mais je ne sais pas si tu as vu un petit collectif qui s'appelle La Nouvelle Vague, qui justement pousse à. Enfin, cherche à justement reconquérir un peu ce public français. En leur présentant aussi des choses un peu nouvelles, quoi, qui sortent aussi des, on va dire, des trois gros, NC, Martel, Rémi Martin, Courvoisier, tout ça. Et voilà, bon, moi, je suis plutôt très optimiste, mais bon, à suivre, ça va prendre du temps. Mais...
Pour moi, c'est comme le vin, c'est une question de... Tu vois, le contrario qu'il peut y avoir, c'est que dans le whisky, tu vas avoir des arômes qui sont assez... Alors, les arômes principaux, je parle... vont être facilement identifiables par n'importe quelle personne.
Ouais.
Alors que dans le cognac, alors déjà, si tu prends des jeunes versus des plus vieux et ainsi de suite, bon, c'est pas la même intensité. Mais c'est comme dans le vin, il te faut un petit peu plus de connaissances pour pouvoir appréhender ce panel aromatique qui est moins flagrant.
Ouais.
Mais tu te fais autant plaisir. Pour moi, je me fais autant plaisir dans un whisky que dans un cognac. Maintenant, je pense que c'est un peu juste le leitmotiv sur les cognacs, c'est que les gens ont besoin d'avoir un petit training au préalable, tu vois, comme dans l'univers vin, où quand tu commences, je parle en ce qui me concerne, moi j'ai commencé le vin, tu vois, 19 ans, 18 ans, je trouve, ouais, bof, voilà. c'est le palais, je pense, évolue au fur et à mesure du temps, et après, tu aimes ou tu n'aimes pas, mais tu te construis ce palais, ce côté aromatique, et tu retrouves des arômes, et c'est vrai que dans le cognac, que ce soit grande marque ou petite, t'as plein de petites marques qui font des trucs mais qui sont splendides en cognac. C'est juste, il faut juste passer le pas et dire de goûter. Tu vois, tu le mixes juste tout bête. Tu mets du cognac avec du ginger ale ou des choses de ce type-là qui sont très faciles à boire et puis en plus low alcool. C'est super bon.
Ouais, c'est. Mais peut-être qu'on est un peu bloqué aussi. On se dit, je sais pas, c'est gâché peut-être. Je sais pas. Il y a peut-être une espèce d'inconscient comme ça qui fait qu'on se crée des barrières aussi nous-mêmes.
On veut, puis après, ah oui, mais c'est un XO, donc c'est vieux. Et voilà, c'est un mix entre les deux. Et puis ça reste de la grappe. Donc c'est toujours plus cher que du grain, entre guillemets. Donc, Horsnake, voilà, c'était ça que je cherchais. Horsnake.
Ah oui, ok.
Très très bon.
Pas très sympa, effectivement. Bah écoute, on reste dans le cognac et on va parler d'un cognac très cher probablement. C'est Larsen qui va fêter ses 70 ans et qui a fait une bouteille. Donc ils ont une bouteille en forme de drakkar, hein, avec des origines vikings et tout. Et là, c'est avec ses certis d'or 24 carats. Donc voilà, donc bon, peut-être pas en hors snack celui-là, je sais pas, mais peut-être même qu'on l'ouvre pas ou je sais pas.
Pas sûr, alors tu récupères l'or.
Ouais. Bon, voilà, des petites collabs, mais je pense qu'ils aussi participent à cette image du cognac très précieux et qu'on a peut-être pas envie de bousculer, je ne sais pas.
Ouais, puis je pense que c'est ce qui fonctionne aussi dans les pays étrangers. Hein. C'est qu'ils ont, ouais. Je pense qu'ils sont plus sur un niveau haut de gamme que sur un niveau mainstream sur les cognacs.
Bah après, si c'est pour le marché asiatique, effectivement, c'est réalisé avec un artiste chinois. Donc,
ouais, donc cherche pas.
Donc je pense que la boucle est bouclée.
Et voilà. C'est carafe en plus, je pense que ça va être prévendu, entre guillemets.
Donc, c'est Larsen Cognac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On revient en France. Bon, on était en France, mais côté breton cette fois. Avec Maison Duthier qui a lancé un... Alors, leur truc, c'est le chanvre. Voilà. Et ils ont une gamme de gin, il me semble. Et là, ils ont sorti une nouveauté qui est une boisson spiritueuse à base avec deux déclinaisons, donc aromatisées. Mais c'est à base de rhum. Et avec dedans du chanvre, du... Qu'est-ce qu'il y a? Chanvre, pomme, café et noisette. Et on en a un deuxième, chanvre, orange, sanguine et cacao. Voilà, donc petite curiosité comme ça, créative. Et bon, une espèce de rhum aromatisé, rhum épicé. Je ne sais pas comment je pourrais le qualifier exactement, mais façon gin aussi.
T'as goûté, non?
Non, j'ai pas goûté. Mais voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu de beau? Ah oui, c'est, on revient un peu au RTD et avec, je sais pas si t'as connu Sunny Delight.
Oui, je me faisais penser quand je vois Sunny Delight, je suis merde, c'est bizarre.
Voilà, donc même cette marque qu'on connaît pour, je sais pas, des espèces de jus d'orange ultra sucré, même eux se mettent au hard seltzer. Et j'étais tombé sur ce tweet assez amusant du mec qui dit « What's next Nesquik White Russians ?» Pourquoi pas mais voilà, il y a vraiment clairement qui n'a pas son hard seltzer aujourd'hui, du moins sur le marché américain, c'est assez fou. T'as même Lipton qui va faire un hard Lipton Iced Tea, il y a Coca-Cola évidemment qui se lance là-dessus, il y a Monster Energy... Il y a PepsiCo, ouais, avec Hard Mountain Dew, enfin bref, il y a...
Mais t'as des stats là-dessus?
Là, c'est fou.
Ça marche réellement ou c'est des effets de... mode?
J'ai pas de stats, c'est encore pour le coup un peu naissant, j'ai l'impression, tu vois, genre le Hard Mountain Dew, c'est genre ils le sortent état par état, donc je pense qu'eux-mêmes expérimentent, mais tu vois qu'il y a plein de projets comme ça, chez Coca-Cola, chez PepsiCo... Enfin, tu vois, faire du hard Lipton Iced Tea, ça va exister, je sais pas. Alors, pour le marché américain, peut-être qu'il y a un vrai truc, quoi.
Ouais.
Mais c'est marrant parce que tu vois, on parlait juste avant de tout ce mélange. Maintenant, on a les softs qui deviennent hard, les hards qui deviennent sans alcool.
Enfin, tu vois,
le whisky dans des fûts d'Armagnac, des Armagnacs dans des fûts d'Islay. Enfin, tu vois, il y a. Où on fait de la tourbe aux États-Unis, il faut suivre.
Chacun essaye de trouver son Eldorado et d'aller chasser sur les terres des autres, voir de ce qui est possible ou pas, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.
Ouais, mais du coup, c'est un vrai challenge, je pense, pour les régulateurs qui ok, merde, on a ce produit-là qui est assimilé soft et qui se retrouve dans un rayon alcool. Est-ce que la confusion n'est pas totale pour les gens? Enfin bref.
Ouais, parce que le hard seltzer, t'es quoi? T'es à moins de t'es à.
C'est 4,5, 5 degrés. Enfin, c'est l'équivalent des bières, quoi.
Ouais. Je sais pas, parce qu'ils avaient. Tu sais, c'était quoi? C'était Ils avaient sorti, là, les. Iristoff, tu sais, c'était très sucré. Il n'y a pas que qui les a sortis, où ils se sont fait vite coincés.
Ouais, les prémix.
Ouais, sur les prémix. Parce que ça, pareil, sur les jeunes, c'était carton plein. C'est-à-dire qu'ils en consommaient, ils achetaient ça à tir larigot. Ils sont un peu passés entre les gouttes en termes de législation, mais c'est
On dirait que ça revient, quoi. Enfin, peut-être pas sur, pas trop sur le marché français aujourd'hui, mais on voit qu'aux États-Unis, c'est un truc de malade. Moi, toutes les semaines, tu vois des trucs.
Je pense qu'ils veulent faire la réussite Red Bull sur l'alcool.
Ouais. Bah voilà, mais. Enfin, on est probablement qu'il y a un vodka Red Bull RTD qui se prépare en coulisses, hein, à l'heure où on se parle, tu vois.
Je pense qu'il serait bête de ne pas le faire.
Et après, ils feront le vodka Red Bull sans alcool, tu vois. Ils feront.
Pas mix, tu vois.
Ils feront une espèce de.
Un jour, tu bois la même chose, mais sans alcool, un jour avec alcool.
Voilà, voilà. Donc ça c'était le petit chapitre news produit. Hein. Pour ceux qui en voudraient davantage, petite auto-promo, sachez que si vous êtes abonné à la newsletter quotidienne, y en a encore plus. Hein. Il y en a deux à trois fois plus que je balance tous les jours dans la newsletter. Et vous pouvez retrouver tout un récap sur le site si vous avez loupé tout ça. Voilà, donc distinews.fr, ceux qui voudraient explorer. Ensuite, on passe à des petites news business et peut-être que tu auras des éclairages justement là-dessus. C'est L'Echo qui a fait un article assez long, assez costaud, avec tout plein de chiffres, un peu un récap de plein de data. Alors, je vais peut-être prendre ce que j'ai écrit dans la newsletter parce que y avait un paquet de choses. Voilà, parce que je ne vais pas vous résumer non plus l'article, mais tout ça pour dire que le marché mondial donc des boissons devrait continuer à croître, hein, sur la période 2022-2025. Et on parle de plus 8% en moyenne de croissance annuelle. On a sinon une petite data que j'ai vue dans l'article qui disait que les 5 plus grandes entreprises de spiritueux contrôlaient 30% du marché, ce qui est moins que dans le côté bière, pour le coup, où c'est les 5 plus gros brasseurs contrôlent plus de la moitié du marché. Donc voilà, donc il y a encore de la place peut-être pour les plus petits acteurs dans les spiritueux. Et voilà, et après, il y a peut-être un truc, tu auras peut-être un éclairage, des insights. Voilà. En gros, ça parle qu'avec toute la situation actuelle de pénurie, de tension sur les approvisionnements, sur. Y a des groupes qui réfléchissent à comment on peut optimiser un peu tous ces coûts et qui ont. Potentiellement des réflexions sur peut-être le plus simple c'est d'acquérir d'autres groupes, d'autres marques pour justement un peu réduire les coûts globaux quoi, en mélangeant tout ça. Et ils citent notamment Campari en disant que certains pensent que Campari pourrait s'intéresser peut-être à faire un rapprochement avec Bacardi ou avec Rémy Martin, sachant que Campari n'est pas forcément très. Par rapport au portfolio de Rémy Cointreau, y a peut-être des synergies, justement, des marques pour compléter un peu tout ça. Bref, je ne sais pas si toi, qui es dedans, tu entends des rumeurs, est-ce que peut-être tu peux partager des choses. Ça serait un scoop ici, mais voilà.
Alors, rumeurs, non. Après, comme tu dis, c'est entre le monde des spies et le monde des bières, c'est vrai que quand même, tu as des gros mastodons qui détiennent énormément de marques. Donc, c'est pour ça qu'ils détiennent 55% du marché, malgré qu'il y ait énormément de petits brasseurs.
Ouais.
C'est vrai que dans les SPI, tu as vu ces dernières années beaucoup de maisons voir le jour, se créer, ou des marques racheter leurs distributeurs pour s'assurer, on va dire, du bien fondé de leur distribution. Mmh. Alors, après, est-ce que Campari, c'est vrai que Campari, quand tu vois ce qu'ils ont racheté au fur et à mesure du temps et ainsi de suite. Ça fonctionne très très bien, grand groupe. Maintenant,
en gros, ils disaient qu'ils ont fait une vingtaine d'acquisitions, je crois, depuis 2007.
Ouais, tu vois, en 15 ans. Et plus, dont ouais, des ça. Distributeurs. Donc ça marche plutôt bien. Après, Bacardi, je sais pas, parce que Bacardi, c'est quand même. C'est gros, mais je te dirais, c'est peut-être plus. Peut-être plus logique. Est-ce que c'est des partenariats de plateforme tu vois, Rémy Martin, Rémy Cointreau, il y a quelques années, tu avais des Juventus qui étaient Elixir Triodis, qui étaient Bacardi, William Grant, et Rémy Cointreau. Après, tu as eu Bacardi, il s'en est retiré. Après, tu avais William Grant, Rémy Cointreau. Après, d'accord, les deux sont séparés. Nous, tu vois, on a créé la famille, a voulu, parce que nous, on reste un groupe familial, ce qui, des fois, fait un peu la différence. Et en fin de compte, nous, pareil, dans les idées, c'était de se dire, le groupe, on est limité en termes de volume.
Ouais.
On peut pas, le nombre d'années, tu ne peux pas le réduire. Certains y arrivent peut-être, mais la famille se refuse. Si tu veux du cognac, il faut un certain nombre d'années pour pouvoir le faire vieillir, le commercialiser. Tu ne peux pas le réduire et dire, tiens, j'envoie quelque chose qui a moitié moins d'âge et puis advienne que pourra. Donc nous, on est plus sur Rémy Cointreau, sur un objectif de valoriser le produit et de ne pas forcément aller chercher des volumes gigantesques.
D'accord.
Non, il était question à une époque, pas très lointain, de se dire, voilà, si on veut se développer, peut-être que c'est en faisant des acquisitions d'autres marques. Maintenant, est-ce que, là je te parle en monde, mais après dans la distribution, tu peux très bien avoir des accords qui pourraient s'en voir le jour, j'en ai aucune idée. Que ce soit entre Bacardi, alors Bacardi, Rémy Cointreau, j'y crois moins. Mm. Campari, Rémy Cointreau, peut-être sur certains pays où ils y verraient un avantage commun. Parce qu'après, tu as aussi une question de beaucoup de pays où tu n'as pas de filiale, c'est des distributeurs.
Ouais.
Et le fait d'avoir X nombre de distributeurs, bah, tu noies un peu, en fin de compte, ce que tu veux faire, mais chaque pays gère sa distribution. Peut-être que Campari a aussi dans cette idée-là de pouvoir avoir une meilleure gestion, en fin de compte, de sa distribution dans certains pays versus d'autres. Donc, je te dirais que pas. À l'heure actuelle, je dirais que tout est possible depuis. Avant le Covid, peut-être pas. Depuis, LVMH rachète, se diversifie énormément au niveau vin. Je pense que tout est possible.
Bah en gros, là, ce qu'ils avancent, notamment par rapport à Martini, c'est que. Enfin, Bacardi Martini, c'est que. Donc, Campari a déjà acquis Grand Marnier. Qui a peut-être des rapprochements dans la mesure où Martini est produit en Italie aussi. Voilà. Et sinon, alors là j'extrapole, mais ça me fait penser qu'il y avait une rumeur que j'avais vue dans pas mal de médias l'an dernier, qui était que même potentiellement c'était Pernod Ricard qui pourrait aussi s'intéresser à Brown-Forman. Pour aller titiller davantage encore Diageo, quoi.
Donc, mais je te dis que, après, tout dépend le modèle qu'ils veulent faire. Après, je pense que ce ne sera pas des rachats, parce que le problème, c'est qu'après, c'est quand même des rachats qui sont gros, hein. Même si on parle de Pernod Ricard ou ce que tu veux, à part LVMH, je pense que les autres, mais est-ce que ça peut être justement des associations de grandes maisons pour pouvoir aller. Justement se battre versus des gens encore plus gros, pourquoi pas, mais parce que si tu sors de l'Europe, entre guillemets, c'est vrai que tu prends le rien que le marché américain, c'est énorme. Si tu fais les LVMH ou mondialement parlant, ils sont extrêmement bien présents. Mmh. Même quand tu vois Diageo, c'est quand même dans les 5 premiers, entre guillemets, c'est des gros mastodons qui sont présents. Et après, je pense qu'il va falloir qu'ils s'assurent. Des matières premières, du verre, de tout ce qui s'ensuit, parce que je pense que c'est aussi une des problématiques quand tu produis énormément. C'est que vu l'augmentation des coûts à l'heure actuelle, il va falloir être sûr de tondre son sourcil.
Ouais. C'est clairement, en gros, l'argument numéro un qui est présenté. Hein, c'est vraiment le contexte qui fait que. Tout ça fait sens finalement. Donc en gros, voilà, à suivre, mais potentiellement une vague de fusion, de machin à suivre dans les mois ou les années qui arrivent.
T'as eu beaucoup de rachats là dernièrement, entre Diplomatico, ouais. Gin Marais.
Il
y
a Don Papa par Diageo. Il y a quoi, ouais, Diplomatico, c'est Brown-Forman. Ouais. Il y a Pernod Ricard qui a racheté une tequila. Codigo, ouais. je ne sais plus le chiffre hier.
Il y a des choses. Mais tu vois, tequila,
je
me suis toujours posé la question de savoir que pour moi, il y a une pénurie d'agave.
Ouais.
Mais il n'y a jamais eu autant de ventes de tequila.
Ouais, mais tu vois, tu parlais juste avant de justement cette vision de pas justement réduire les années sur le cognac ou quoi. C'est à contrario ce qui se fait justement dans la tequila où visiblement on cueille les piñas, les agaves avant, enfin de plus en plus tôt justement. Poursuivre. Mais clairement, oui, là, tu vois pas mal de signaux pour dire que, ouais, y a un peu, y a de la demande, mais les agaves, va leur falloir du temps, hein, si
Non,
on
mais
veut.
toute la problématique, c'est qu'il faut laisser du temps au temps. C'est que ça, tu pourras jamais le remplacer. Enfin, tu vois, c'est bête à dire, mais c'est. Alors, d'un autre côté, il y a une grande course qui se fait, mais évidemment, il va falloir que tout le monde calme à tous les niveaux, parce qu'on se rend compte que, de toute façon, ce qui n'est plus. Tu vois, toutes les entreprises, nous compris, on a des gros engagements RSE, parce qu'on y croit et parce qu'on a aussi une ADN bio dans le groupe, et ainsi de suite. Mais de toute façon, arrive un moment. Tu ne pourras plus répondre, pas forcément à tout le monde, parce que tu n'as plus assez de matières premières.
Clairement, mais
Et peut-être que là,
c'est...
pour revenir à ce que tu disais, peut-être que là, tu as des groupes qui vont racheter d'autres groupes, parce que pour être plus fort et ou moins faible, tout dépend de comment on se situe, parce que ils ne pourront pas produire plus.
Bon, en tout cas, c'est fascinant à suivre, mais je pense un peu la trame de fond là, de tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a... Il y a des forces qui s'affrontent entre RSE, mais en même temps croissance du marché. Enfin, comment tu faire
Comment
du
on fait?
vrac, mais comment tu le mets en place. Enfin,
Ouais, alors
c'est
ouais.
fascinant.
Il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre, enfin de se chercher, de se trouver, de se mettre en place. Tu rajoutes l'alignement des planètes, tu rajoutes un petit côté de bio, un petit côté RSE et ainsi de suite. Et après, une fois qu'on aura trouvé le chemin, je pense que tout le monde va s'engouffrer et y aller. Mais oui, je pense qu'on en est là parce que c'est. Je pense que c'est indéniable. Je pense que c'est comme on disait, bon, l'Internet qui a augmenté avant le Covid, puis après le Covid, maintenant non, mais c'est retour au magasin, ce que les gens veulent. Voilà, je pense qu'il y a un mix de tout. Je pense que dans les maisons, bah, c'est pareil, c'est que le côté inflationniste fait que bah, si tu veux proposer un produit qui soit quand même encore accessible à tout le monde, malgré les augmentations, bah, il faut aussi trouver des solutions. Que si tu veux être RSE, oui, c'est une chose, mais c'est comme le côté bio, tu ne peux pas passer du jour au lendemain. Dire juste, bah, ok, maintenant on est bio. Non, ça prend quelques années et puis il faut que les gens sachent le faire et veuillent le faire. Donc il y a des accompagnements à faire. Toi, tout ça va prendre quelques années, mais je pense qu'on va voir un exemple par un exemple par un exemple qui va avancer, qui va montrer la voie et qu'on va suivre. Ça, c'est drôle.
Ouais, bon, en tout cas fascinant à suivre et bah écoute, je serai là pour le rapporter. Voilà.
Je compte sur toi.
Next, on va revenir à des choses plus terre à terre, peut-être, je ne sais pas. Avec quoi? Avec simplement, ouais, peut-être une petite promo pour Super Potion, un autre podcast qui a fait son dernier épisode sur la loi Evin. Et épisode que je recommande à beaucoup, bah, tout le monde en fait. Voilà. Avec un avocat qui s'appelle Pierre Galmiche, et ils sont revenus sur pas mal de sujets, notamment tout ce qui est lié à dernièrement Meta, qui a dû effacer des posts d'influenceurs, comment on peut, je sais pas, communiquer sur, je sais pas si tu as suivi, on avait parlé d'une vodka qui s'appelle Alcoholic Vodka, qui justement a un discours totalement à contre-courant pour dire cette vodka tue, en gros, cette vodka est mauvaise pour vous, etc., etc. Un discours très sincère. Et dans quelle mesure est-ce que ça, on pourrait le faire en France? Ça revient aussi sur l'idée de propagande, à savoir quand tu fais, je sais pas, de la, bah, que tu sans qu'il y ait forcément de contrepartie, mais que tu parles positivement de l'alcool. Dans quelle mesure la communication peut être objective? Est-ce que c'est possible ou pas? Il y a forcément peut-être un côté subjectif, émotionnel dans la com, dans la publicité. Dans quelle mesure, je sais pas, peut-être même un jour, simplement, tu es en vacances à la plage, tu bois un verre et tu te prends en photo. Dans quelle mesure, je sais pas, c'est de la propagande ou pas? C'est un épisode qui est très fascinant, qui parle même de, je sais pas, de Captain Morgan. Est-ce que le pirate sur la bouteille, c'est
C'est trop.
dans quelle mesure ça pose problème ou pas, quoi? Le phénix de Grimbergen, enfin, C'est bref, un épisode très très intéressant que vous pouvez retrouver donc sur Super Potion. Ensuite, donc alcoolique, vodka, on en a parlé.
Rien à voir, ouais. Si je peux me permettre, mais tu fais le parallèle, c'est que tu vois, là, ils font un contrôle via influenceur Instagram alcool.
Ouais.
Ils font la même chose, par exemple, sur les bitcoins.
Sur les cryptos, tu veux dire ?
Ouais.
Ouais.
Parce que c'est pareil. Ouais, bah... Tu vois, c'est des flux. Alors, c'est des. Pas de no man's land, mais c'est des évolutions qui ont été très très rapides, sauf qu'il n'y a aucune loi derrière. Et ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose parce que dans tout nouveau média, des gens s'en servent mauvais escient, d'autres rabons. Mais ils essayent de contrôler pour justement que les gens ne se fassent pas non plus arnaquer ou qu'il n'y ait pas une grosse propagande pour dire oui, l'alcool. Buvez-en tous les jours au petit déjeuner jusqu'à la fin de la journée, c'est très très bon. Ou la crypto, voilà.
Allez-y, c'est sans risque.
Oui, mettez toutes vos économies, mettez votre PEL et vous serez riche dans un an.
Ne le faites pas. mais en parlant de PEL, tiens, justement, ça m'amène à ma news suivante. C'est Whisky Advocate qui fait, je crois, tous les mois un petit récap des plus grosses enchères dans le whisky. Et voilà, donc quelqu'un a peut-être craqué son PEL justement pour s'offrir ce petit Macallan Distill Your World New York pour 200 000 dollars au mois de février.
C'est un peu plus que le PEL.
Voilà, donc là oui, il faut plus que vider le livret A et tout. Voilà, en deuxième position, on avait un Beaumort à 102 000 dollars avec flacon qui est designé par Aston Martin.
Ah.
Assez stylé, là, le Arc 52. Ouais. Et puis après, on a encore du Macallan. Un Macallan qui est tout le temps là, quoi. Donc voilà, peut-être,
et tu vois,
peut-être un investissement plus intéressant, je ne sais pas. Enfin bon, après, moi
je pense que c'est meilleur que la crypto. Hein.
Ouais.
Après, alors, tu vois, la question que j'ai toujours posée, c'est... Alors, ça s'achète, a priori. Hein.
Ouais.
Après, tu vois, ces bouteilles-là, je serais curieux de voir... À la finale, tu vois, les Black Beaumort, les White, toute cette génération de produits élitistes et qui vont devenir une raréfaction absolument magnifique.
Ouais.
Je serais de savoir où elles sont entreposées, est-ce qu'elles sont bues, est-ce que c'est de
la spéculation, ouais.
Ouais, de la spéculation dessus, je sais pas. Parce que tu dis quand même, il y a des, enfin, tu vois, 550 000 euros là. C'est très beau, hein. Et puis en faux, ça fait partie de l'aura de la marque, et ainsi de suite. Et c'est une très très belle réussite, que ce soit Beaumort, que ce soit Macallan ou toutes ces maisons-là. Mais après, tu te demandes, je peux te voir le musée où elles sont enfermées.
Ouais. pareil, ouais. Je sais pas. Moi, pour le coup, je suis assez. Je trouve ça assez triste quand même, tout ça. On oublie finalement. J'ai l'impression que c'est plus l'objet ou l'étiquette que tu achètes. C'est plus. Finalement, peu importe ce qu'il y a dedans, ça compte pour l'histoire du produit, mais si ça n'est jamais bu, c'est. Finalement, peu importe.
Alors, c'est tout le. Si tu veux le parallèle avec le vin, pour en avoir vendu pendant quelques années, c'est tout le parallèle qu'il y a aussi dans le vin, où justement, les maisons de vin, les grandes maisons de vin, pour ne pas les citer, ne veulent justement pas, alors même s'il y a, c'est comme tout, hein, c'est que tout le monde en joue, mais on ne veut pas y être trop. Ils veulent que leur vin soit bu à la finale.
Ouais.
Ils ne veulent pas que ça soit juste de la thésaurisation, parce que c'est pas bon. Et je pense que dans les maisons de spi, c'est pareil, c'est qu'il faut un peu en avoir, le côté raréfication et ainsi de suite, mais il faut que les gens le consomment. C'est tout. Mais là, entre guillemets, la fabrication de ces produits-là est faite pour être bu et se faire plaisir et donner du plaisir entre guillemets entre amis en buvant ce produit-là. C'est pas du placement dans un coffre-fort.
Bon, après, c'est un bon support marketing, peut-être, finalement, pour tout le reste des produits qui, eux, vont être vendus et bu, potentiellement, enfin, ou alors encore plus être victime de spéculation. Voilà.
C'est comme les grosses voitures, sauf que tu as quelqu'un qui l'achète et qui la conduit réellement.
Ouais. pour rester dans le sujet enchères, j'avais parlé il y a peut-être 2-3 semaines d'un Middleton Very Rare que c'est très intéressant parce que c'est, en fait, c'est un assemblage de 40 millésimes de Middleton Very Rare. Donc, ils ont pris de chaque année, de 84 à 2023, une fraction. Ils ont tout mis dans une bouteille. Et ça a été vendu sur une plateforme, justement, qui est un peu dans toutes ces délires blockchain, qui s'appelle Blockbar.
NFT.
NFT. Et du coup, c'était mis en vente à 130 000 dollars. Et simplement pour conclure là-dessus, c'est que ça s'est vendu littéralement en 2 secondes. Voilà, donc il y avait une bouteille. Tu as l'article là qui explique que ça a été mis en vente à 10 heures du matin, mais en gros à 10 heures et 2 secondes, ça y est. Quelqu'un avait lâché les 130 000 dollars et voilà. Et propriétaire du NFT qui correspond à la bouteille.
Du NFT.
Voilà, et là pour le coup, on est plus dans. Peut-être dans de la spéculation, parce que la plateforme est un peu bâtie là-dessus, c'est que tu acquiers le NFT. Eux, ils stockent la bouteille dans leur coffre-fort, je ne sais pas où, à Singapour ou quoi. Et tu peux très facilement, alors s'il y a des acheteurs évidemment, mais revendre le NFT, donc, qui est le titre de propriété de la bouteille finalement.
Voilà. Ah, donc, tu as quand même, tu es l'heureux possesseur quand même de la bouteille, ce n'est pas que du NFT.
Ah oui, oui, oui. En fait, le NFT, c'est un contrat inscrit dans la blockchain qui dit que tu es le propriétaire de la bouteille. Donc, tu as le choix. Soit tu dis à la plateforme, je veux récupérer la bouteille physique. Et donc, tu brûles. On dit brûler le NFT.
D'accord.
Et tu reçois la bouteille. Il te l'envoie, quoi. Ou alors, tu dis, OK, conservez la bouteille dans vos coffres. Moi, je garde le titre de propriété. Mais comme ça, c'est beaucoup plus liquide, entre guillemets,
ouais,
puisque je peux le revendre. J'ai juste à céder le NFT et c'est celui qui acquérera le NFT qui deviendra de facto le nouveau propriétaire de la bouteille.
Ouais,
et qui aura lui-même le choix de récupérer la bouteille ou de continuer. Et potentiellement, à chaque fois, le prix augmente ou baisse.
Bah, ouais, moi, ce qui m'a toujours fait peur de ça, c'est que... Alors, pas cette société-là, mais... C'est-à-dire, quelqu'un garde quelque chose pour toi, la personne fait faillite ou il y a un changement et compagnie, comment tu fais pour t'assurer légalement parlant de récupérer ton bien?
Là, c'est... Oui,
c'est de mon côté, terrien...
On est peut-être dans des aspects un peu flous, mais la promesse de la blockchain, finalement, c'est que c'est un registre qui est infalsifiable, qui est éternel. Donc, si dans la blockchain, c'est inscrit que tu es propriétaire du NFT qui correspond à ça, enfin, tu as tous les termes du contrat dedans, tu as une espèce de preuve absolue que on te doit l'objet en question. Et après, j'espère que toutes les maisons qui collaborent avec la plateforme s'assurent qu'effectivement, tout est... Enfin, tu vois, il y a Blockbar, il y a... Je sais pas, il y a Patron qui a vendu des trucs dessus, il y a Hardback qui a vendu dessus, il y a...
Enfin, ouais, mais tu sais, je te dis ça parce que ça me fait penser, tu veux léguer un peu d'argent à tes enfants,
mm-hmm.
pour les gens qui ont de l'argent,
ouais.
Tu as 130 000 euros, bon, mais tu vois, tu achètes ça entre guillemets, tu donnes le NFT à tes enfants,
ouais.
ça peut être intéressant entre guillemets.
Ah bah oui, là c'est, en fait ça t'élimine plein d'intermédiaires, ça qui est génial. Moi, je suis assez... je crois beaucoup à tout ça. Peut-être que demain, tu pourras acquérir ton appartement via un NFT et tu n'auras plus toutes ces démarches avec notaire, avec tout ce côté administratif, parce que tu pourras céder le NFT de ton logement au nouvel acheteur et ça sera ça qui fera foi que tu as cédé la propriété. Peut-être que ça peut bouger tellement de choses au niveau bancaire aussi. Tu vois, tu feras un prêt et il y aura un contrat comme ça qui dit que tu dois tant à telle condition et peut-être à tant de personnes. Enfin, ça, le champ des possibles est assez, assez fou,
ouais,
quand tu réfléchis. Et pour le coup, la Blockbar, je pense que c'est la plateforme la plus intéressante qui a mis en place ça sur les spiritueux. Parce qu'après, on voit qu'il y a quand même beaucoup de plateformes qui te vendent, je ne sais pas, des fractions de fûts en vieillissement, machin.
Ouais.
Et où là, potentiellement, il y a peut-être des trucs un peu plus border où, en fait, t'es propriétaire de rien du tout, oui. Tu verras jamais.
Quand il va, il n'y en a plus parce que.
Ouais, voilà.
Parce que non, il y a eu une part des anges et puis on a tout vendu.
Ouais, je. Là.
Ouais, non, ah, mais bref, c'est pour ça, je pense que sur les. Il y a des choses, tu peux bien les caler, entre guillemets, mais je pense qu'il y en a d'autres où si tu passes. Voilà, déjà, si tu gardes ça pendant 30 ans chez toi et que tu as vraiment ce qu'il faut. Je pense que tu as intérêt à être hyper calé en back-office pour ne pas perdre des informations et avoir tout ce qu'il faut.
Oui, bah, tu as ta petite clé de bah, du NFT, quoi. Qu'il ouais. faut pas perdre le mot de passe, en gros.
C'est toi qui es le. Faut pas se faire hacker sur ordinateur.
Voilà. Après, tu as des systèmes qui font que c'est impiratable, quoi. C'est juste. Ouais. La seule défaillance, c'est toi qui perds le code, c'est toi qui. Je sais pas, tu l'as noté sur un bout de papier et t'as un dégât des eaux et puis, enfin, tu vois, une bêtise comme ça, quoi.
C'est dommage.
Enfin, bref. On pourrait faire tout un sujet là-dessus. Ensuite, pour finir un peu toutes ces news business, hein, simplement pour dire qu'il y a le Discus, la Distilled Spirit Council of the United States, qui a publié un rapport sur les résultats donc, des exportations américaines en 2022, donc bah écoute, tout va bien, voilà. Puisqu'on est pareil, hein, il y avait la fédération des vins spiritueux là française qui avait aussi publié, donc en gros c'est des années records en ce moment, hein,
ouais.
2022, avec des bonnes perspectives. Donc là, pareil, hein, on va peut-être pas trop s'embêter là-dessus en podcast, mais si vous voulez en tout cas retrouver le rapport complet. Il y a évidemment le lien dans la newsletter. Voilà, je ne sais pas si toi, tu as des commentaires particuliers là-dessus, mais bon.
Non, mais de toute façon, depuis le Covid, le marché des spiritueux, va bien.
Ouais. Bah, on voit là, en gros.
Il n'est pas redescendu. C'est surtout ça.
Voilà, en gros, il y a une baisse, mais qui était liée aux taxes douanières là, qu'il y avait avec,
ouais, les
avec la Grande-Bretagne et compagnie, mais ça a sauté du coup l'été dernier. Et bah, écoute, ça fait partie des raisons pour lesquelles ça va mieux aussi. Voilà.
Mais c'était très inquiet quand ils étaient entre les bruits qui couraient. Voilà, c'était passé, je ne sais plus, c'était 4,5, 7,5 ou 10 ou 15, je ne sais plus. Enfin, mais grosso modo, bah, c'est simple, ça te rendait inexportable tes produits. Ce n'était pas concurrentiel, donc c'était fini. Et c'est vrai que, mais c'est les menaces qu'ils ont à droite à gauche, c'est les seules choses qui font fluctuer, mais non, mondialement parlant, tu peux avoir des ralentissements, ainsi de suite. Maintenant, là, c'est plus là à voir avec les débuts d'inflation, la hausse des taux à droite à gauche qui fera peut-être plus jouer l'économie et qui aura peut-être un effet sur les ventes. Mais pour l'instant, on va dire que les ventes des spiritueux, même si tu prends sur le marché français, tu vois, ou Europe, est en hausse et ne baisse pas. Jusque-là, ne baisse pas.
Ouais. Bon, tout ce que je vois passer, c'est que, en gros, on a rattrapé les niveaux d'avant pandémie et même on les a dépassés. Voilà, en gros, c'est ça qui transparaît partout. Ensuite, on va passer à un côté plus technique producteur avec Martel qui a communiqué sur une innovation au niveau des alambics avec Chalvignac. Il me semble que Rémi Cointreau et NC aussi ont participé à des projets de ce type-là, ou probablement avec Chalvignac aussi, je ne sais pas. Mais voilà, simplement pour dire qu'ils ont donc perfectionné un système de distillation du cognac à la vapeur, avec un système qui en fait permet d'économiser jusqu'à potentiellement 85% d'énergie. Si je ne m'abuse, alors il y a un article de Terre de Vin qui nous donne le chiffre exact. Qu'est-ce que j'ai lu? C'était. Voilà, diminution possible de 85% des émissions de gaz à effet de serre, pardon, et une baisse de plus de 50% des consommations énergétiques. Donc voilà, petite innovation dans le cognac. Là, on a une petite photo hein, pour ceux qui seraient un peu techos. On a un échangeur thermique, mais en gros, je pense que le principe, c'est qu'on a de la vapeur qui condense. Dans l'échangeur thermique, elle est réchauffée et immédiatement, elle se remet à chauffer le cucurbite. Donc voilà, et du coup, un système très efficient. Quelque chose qui me... Je ne sais pas si toi, t'es calé là-dessus ou quoi. Mais on voit quand même que dans le cognac, il y a quelque chose d'assez... on sent que c'est pas facile, quoi. Puisque là, on est face à une innovation qui potentiellement va dans le sens de moins d'énergie, plus vert, enfin moins de carbone et tout. Mais on voit que pour le valider à l'INAO, ça peut prendre 1 à 2 ans de paperasserie et tout, qu'il faut s'assurer que... au niveau des dégustations, c'est équivalent. Enfin bref, tu sens qu'il y a toute une machine derrière quand même qui fait que bah on est encore dans cette confrontation là qu'on évoque depuis le début.
C'est compliqué quand t'es sur l'INAO, les appellations. Le moindre petit changement te prend un temps phénoménal et il faut leur prouver que en fin de compte tu. Alors ce qui est bien, ce sont des garants aussi pour nous de te dire que tu fais pas n'importe quoi. Il vaut mieux ça, mais c'est vrai que des fois c'est l'administratif où bah, tu sais que ça va prendre du temps, donc il faut s'y prendre très tôt. Ouais. Donc, tu vois, ils n'ont pas attendu parce que pour qu'ils l'aient en réel test et ainsi de suite, ça fait déjà des mois qu'ils travaillent dessus.
Ouais.
Donc c'est plutôt bien, mais c'est. Voilà. Le feu de bois, c'est bien, mais où le gars.
Voilà. Donc à suivre en tout cas, espérons que ça se développe et se débloque. Voilà.
Ouais, l'avantage chez nous, je parle en France sur les appellations, ça te protège d'un côté gustatif et d'une certaine qualité. Alors que t'as peut-être ailleurs des endroits où tu parlais du maguey où voilà, on fait vieillir moins longtemps, allez, c'est pas 2 ans et demi, c'est 6 mois, on distille, ouais. On envoie, merci, au revoir. Voilà. Il y a le pot et le contre, je pense, partout, mais.
Après, moi, j'ai le sentiment que d'un point de vue technique, peut-être on met un peu beaucoup l'accent là sur l'aspect distillation, qui pour moi est peut-être l'aspect le moins touchy finalement, versus la fermentation qu'il y a en amont ou tout le travail de vieillissement qu'il y a en aval.
Bon, si tu regardes, si tu prends l'exemple des Écossais qui te reproduisent les alambics avec les bosses et ainsi de suite, parce qu'ils connaissent pas. Est-ce que c'est une. Alors, certains, je sais, tu pourras me dire, moi je sais qu'à chaque fois que je leur pose la question, ils vont me dire que certains vont dire oui, folklore, d'autres non, c'est comme on ne sait pas, l'influence pas que ça peut avoir, on préfère le refaire.
Ouais.
mais je dirais que voilà, il y a des. Enfin, est-ce que tu vois, est-ce que le chauffage au feu de bois et à la vapeur. T'amènes un côté gustatif ou pas, je suis pas assez technique pour me permettre de juger. Après, comme tu dis, je pense que fermentation, distillation sur lit, pas sur lit, et les bois utilisés et la durée, je pense que oui, c'est un... Voilà, tu vois, c'est comme le whisky, le vieillissement, qu'on dit que l'eau a une part essentielle. Non.
C'est surtout que l'eau, au final, elle est, pour beaucoup, elle est simplement osmosée, quoi. Donc c'est.
Non, mais c'est pas. Il faut arrêter de se cacher en disant ah oui, il faut être près d'une rayure. Non, non, il faut arrêter. L'eau, c'est 5% du goût à la finale. Donc,
ah oui,
puis à moins que tu mettes une eau qui soit nucléaire, mais. voilà,
qui
mais
l'eau du goût, tout simplement.
N'a pas une importance gustative.
La réalité, c'est que la plupart des distilleries, quand bien même elles prennent leur eau dans une source incroyable ou quoi, finalement, elles refiltrent l'eau derrière.
Oui.
Elles osmosent tout ça. Donc, en fait, ça pourrait être l'eau de la Seine ou l'eau de, ou de leur superbe source. Le résultat final, c'est une eau, c'est du H2O, quoi, pur et dur. Donc, voilà. Bon, moi, je serais en tout cas de la team un peu que c'est folklorique, tout ça, qu'il y a des aspects esthétiques qui n'ont aucun impact, que c'est plus, je sais pas, la hauteur de l'alambic a plus d'impact sur la rectification que la forme même de l'oignon, du truc, ou tu vois.
Je pense que ça pourrait être un jour avoir un vrai meeting avec toi, avec des... Toi, tu sais, tu maîtrises, donc tu peux en parler. Mais ouais, je pense de prendre quelques personnes pour se dire, voilà, quelle est la réalité, il faut quoi ? Quel est l'intérêt ? Est-ce qu'il y a un col de cygne ? Oui, pourquoi tu prends un col de cygne différent ? L'oignon, quelle taille, pas quelle taille ? Plateau de rectification, oui, non
En fait, c'est que d'un point de vue purement pragmatique, quand tu produis, tu réalises qu'il y a une... tellement une infinité de facteurs que en fait tout ce travail que tu as comme ça de réflexion, on va dire, tu vas peut-être limiter les incertitudes Mais il y a quand même, enfin, tu vois, ta récolte de raisin, elle est comme ci ou comme ça, ça change. Ta fermentation, elle se passe, je sais pas, il pleut ce jour-là ou cette semaine-là versus l'été, j'en sais rien, tu vois. Il y a tellement de facteurs. Et puis après, quand tu vas vieillir, il s'est passé, je sais pas, pareil. Il a fait très humide, il a fait très sec, il a fait ceci, cela. C'était canicule, pas canicule.
C'est compliqué de suivre.
Du coup, avec quelle certitude, à la fin, tu peux dire « Oui, c'est parce que j'ai fait ça que ça a ce goût-là. » Moi, je n'aurais pas cette prétention, en tout cas.
Non.
Je trouve que c'est ça aussi qui est beau. C'est finalement d'accepter que tu ne maîtrises pas tout et que tu vas avoir ces incertitudes-là qui vont faire que ce lot-là est cool. Et au final...
C'est et après, quand tu es...
Voilà, et pareil, quand tu fais du gin, tes épices, tu maîtrises pas non plus forcément tout le sourcing. Donc, c'est tellement, tellement de choses. Et le seul truc que tu peux faire, c'est quand tu as une grosse unité de production, c'est que vu que tu vas pouvoir produire de la quantité, tu vas pouvoir annuler les différences en faisant de l'assemblage.
Oui. Voilà. Ouais, ce que j'ai à dire, c'est qu'en plus, on parle de ça, mais là, on va dire les seuls qui vont voir la différence, ça va être pour des single casques ou des millésimés ou ainsi de suite, parce que tout le reste, c'est de l'assemblage.
Ouais.
Tout but de l'assemblage, c'est d'avoir un produit qui soit identique d'une année sur l'autre, avec quelques évolutions aromatiques au fur et à mesure, mais qui ne se voient pas. Donc, quelque part, même si tu as des petites différences d'une année sur l'autre, le but de l'assemblage, c'est d'homogénéiser la globalité.
Ouais.
Donc, à moins que tu veuilles faire... 5 distillats par an identiques pour voir l'influence de l'été versus de l'hiver, de ta sélection de baies d'une année sur l'autre, un peu comme les sardines millésimées.
Ah mais oui, c'est vrai que ça existe, ça. Ça me fait penser, il y a un projet qui est intéressant dans le whisky français en ce moment, c'est, comment ça s'appelle, Linetti, Maison Linetti, quelque chose comme ça. Qui s'inspire justement du vin et qui veut faire des whisky millésimés.
Oui.
Avec peut-être les mêmes jus qui vont être vieillis, je sais pas, 3, 4, 5 ans, plus, je sais plus. Ça m'échappe un peu là, mais avec l'idée que tu vas pouvoir acheter la bouteille tous les ans, mettons, et comparer justement.
L'évolution.
L'évolution, ouais.
Ouais.
Donc, moi, j'aime bien cette idée d'accepter justement qu'il y a une évolution des différences et que tu vas justement le mettre en avant, finalement.
Ah oui, de toute façon, tu l'as dans les whisky. Enfin, nous, tu vois, sur DHG, les bottes de fût sont millésimées.
Oui. Ouais, oui.
Et tu prends même si tu... Alors, oui, mais c'est différents fûts, d'accord. Donc, tu vas prendre une bêtise Flavus, qui est des vieillissements en fûts de vin jaune, qui sont des fûts différents au cours des années. Alors même s'il y a une trame commune, ils n'ont pas le même goût. Donc, je ne sais plus qui, quelqu'un avait dit qu'il n'y a pas de notion de millésime sur dans le distillat parce qu'on le distille.
Ou de terroir, c'est souvent
oui,
l'argument aussi.
Oui, parce que ça,
le terroir est un peu annulé. Enfin, après, il y a plein de conversations là, dans ce genre-là. Tu vois, c'est comme dire... Ce truc est vegan, tu vois, mais distillé, tu vois.
Le bio, moi, pendant des années, on me disait non, mais ça sert à rien d'avoir du bio dans un produit distillé parce qu'on le distille au minimum deux fois, voire plus. Mais en fin de compte, c'était une des premières questions que j'ai posées à Fred quand je l'ai vu. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses là-dessus? Il m'a dit non, c'est pas que. Un produit bio ou pas bio, en deux solutions. Déjà, après, t'as une ADN et t'as. On va dire un cursus qui est différent, mais quand tu ne fais que le process de distillation, c'est que les molécules que tu peux avoir qui peuvent être mauvaises, on n'a jamais fait la recherche après le distillat de savoir dans quelles molécules elles se transforment pour voir si elles sont présentes ou pas.
D'accord.
Différent. Ça ne veut pas dire qu'un produit distillé par nature est devenu bon. C'est cette molécule, normalement, s'est transformée. Maintenant, en quoi?
D'accord.
Personne n'est allé jusqu'à ce niveau-là de recherche pour savoir si tu prends de l'orge qui a été arrosé avec du pesticide à outrance, comment il ressort et sous quelle forme. Personne n'est allé jusqu'à ce niveau de détail parce que tu t'arrêtes sur le fait que ça limite en fin de compte les intolérances ou les problématiques une fois que tu as distillé. Après, le discours bio, la bio, c'est une question de mentalité.
Ouais.
Ouais,
moi, je le percevais surtout sur ce prisme-là, de fait de... Mais en fait, tu fais du bio pas parce que ça a potentiellement meilleur goût ou quoi. C'est plus la démarche qui t'intéresse, le côté...
Un goût différent, parce
durable.
Que... Bon, complètement, comme dans le vin. Les gens qui font du bio, c'est pas parce que disent... Ah, j'ai envie de faire du vin bio parce qu'il y a un marché et ainsi de suite. C'est qu'ils ont, ils ont l'ADN, ils y passent le temps et ils ont ça en fin de compte dans leur veine. Je pense que c'est tout vient de là.
Ouais. Bah tiens, on parle de terroir. Ça m'amène à la suivante. Waterford, qui est un des plus distilleries les plus vocales sur la dimension du terroir.
Ouais.
Qui a levé 45 millions pour développer encore plus tout ça, et avec l'intention donc de plus particulièrement de développer le marché américain. Voilà, petite news Waterford. Ensuite, on a Michter's, donc là on revient aux États-Unis. Grosse demande de whisky américain, si bien que Michter's a en fait déjà embouteillé tout son stock qui était dispo à embouteiller de 2022. Et du coup, ils communiquent sur le fait qu'ils vont, qu'ils augmentent les cadences, enfin le rythme, c'est-à-dire que maintenant ils passent à de la distillation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils sont en train de poser, enfin d'installer ou d'acquérir des chais supplémentaires justement pour répondre à la demande. Donc plutôt des news positives d'un point de vue le développement de la catégorie. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait de beau? Ah oui, tiens, le champignon du diable. Je ne sais pas si tu as vu passer ça.
Ouais.
Voilà, donc dans un autre sens, on a Jack Daniels qui a quelques soucis de voisinage, puisqu'ils ont dû arrêter un projet d'extension de chais ou quoi, parce qu'il y a une espèce de mécontentement dans le local qui commence à être bruyant, pour le coup. Par rapport à cette part des anges, là, tout cet éthanol qui s'évapore de chez Jack Daniel's et qui crée une espèce de champignon sur les façades des maisons, quoi. Et voilà. Donc, je sais pas si à Cognac, ils ont des problèmes de voisinage ou quoi avec ça. Mais voilà, je trouvais le...
Ça fait partie du folklore, les maisons que tu vois avec justement le champignon... Partie intégrante. Maintenant, c'est vrai que les Américains là-dessus, c'est Jack qui doit être content parce que si c'est le même principe qu'en France, l'État, qui est pourtant un État sec, doit être extrêmement riche uniquement dû à Jack Daniel's déjà. Mais ouais, non, je sais pas. Tu vois, puis l'impact d'éthanol, je pense qu'il construit pas des déchets n'importe où au centre de la ville et compagnie. Donc c'est sécurisé, c'est géré, c'est pas.
En tout cas, petit coup d'arrêt, visiblement, donc à voir. Mais je connaissais pas l'expression de champignon du diable jusque-là. Donc voilà.
Vous pensez au côté mormon, vous savez.
Ouais. petite news bar ensuite, avec Licori delle Sirene qui organise sa compétition de bartender de cocktail. Donc voilà, c'est un peu la saison, il y a énormément de compétitions qui s'organisent. Donc ça, c'est Edon Distribution qui distribue cette marque en France. Petite compétition, voilà, avec un petit voyage en Italie en perspective. Voilà, j'ai vu qu'il y avait Cointreau qui avait fait son challenge aussi tout récemment.
Cointreau, Rémi Martin, pareil, qui a fait le sien.
Donc, bon, bref, si vous êtes bartender, en tout cas, ce n'est pas les compétitions qui manquent. Hein. qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? De toute façon, on arrive un peu vers la fin. Hein. Je rassure les gens tenus jusque-là.
Bientôt fini.
en tout cas, c'est passionnant d'étudier tout ça. On revient à un sujet un peu moins éveillé, on va dire, mais avec Don Julio, simplement, qui a lancé une tequila rosado. Il y a peut-être un trend là-dessus sur le. En fait, c'est de la tequila qui est finie en fût de Porto Ruby, qui lui procure cette couleur rose. Et simplement, ils ont fait un petit spot de pub pour annoncer ça. Voilà, le genre de choses, évidemment, que vous ne verrez jamais à la télé française. Il va sans dire.
Ça va cartonner.
Voilà. Donc Don Julio. Un autre style, on revient à Jack Daniels, qui a fait un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Indian Motorcycle et qui produit en fait 177 motos à l'effigie de la marque. Et le petit truc fun que j'ai noté dans l'article, c'était que la peinture qui a servi à peindre les motos, elle contient du Jack Daniels. Voilà, donc le petit gimmick rigolo, je trouve. Voilà. Donc, on ne manque pas de créativité dans toutes ces collabs. Voilà. Et puis, pour finir, petite news agenda, c'est ce week-end, c'est le Lyon Whisky Festival. Voilà, qui c'est sa troisième édition, il me semble, ou quelque chose comme ça.
Quatre, je crois, non ?
Ouais. Bon, en tout cas, là, c'est depuis 2018, mais avec le Covid... Ça a dû avoir un petit temps d'arrêt, tac, ouais, tac, tac.
On a déjà fait deux, donc je crois qu'on a dû en avoir une avant, donc ça va être la quatrième, ouais. Je pense.
Donc voilà, donc c'est ce week-end, là, 18 et 19 mars, donc si vous êtes à Lyon, voilà.
Samedi, dimanche.
Exactement. Et pour conclure, un peu d'auto-promo, j'ai mis normalement, ouais, simplement pour dire, j'ai un autre podcast, hein, Bottlefield Show. On a fait un petit épisode sur la personnalisation avec un exemple de Hocken Eden où tu peux faire ton petit whisky un peu custom, quoi. Tu choisis le degré, tu choisis le quelles céréales ont été utilisées et l'aromatisation. Voilà, ou pas. Donc voilà, donc ça, vous pouvez retrouver ça sur Bottlefield Show. Pareil. Pour dire qu'il y a évidemment le replay de l'épisode précédent, hein, pour ceux qui voudraient rattraper ça. Donc maintenant, Distill News, donc dispo en version vidéo et audio pour discuter de tout ça, comme on vient de le faire, avec Fabrice pendant probablement pas loin, une heure et demie facile. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a une news particulière qui a retenu ton attention, évidemment, à part Westland Solum.
Bon, je baigne dedans. News qui a retenu mon intérêt, la peinture avec le Jack.
La peinture avec le Jack, ouais. Bah, c'est vrai que c'est des petits gimmicks comme ça, moi, ça m'amuse toujours. Voilà, peut-être qu'elle sent bon, cette moto.
Est-ce que tu peux lécher ta moto? Je ne sais pas.
Bon, on le déconseille, en tout cas, a priori.
Je ne suis pas certain dans les... c'est une marque de moto indienne ou c'est l'Indiana, la célèbre
C'est la marque qui s'appelle comme ça, Indian Motorcycle. Motorcycle, bah, je pense que c'est une marque américaine, hein, tout simplement.
Ça ressemble un peu à une Harley.
Exactement. Donc, une bonne grosse moto...
Américaine.
Peut être à la portée de tout le monde, je crois que c'est bon. Et puis elle doit coûter 25 000 $, il me semble, de mémoire. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cet épisode. Voilà, j'espère que les petits soucis techniques là du début ont pas trop pourri l'épisode. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à repartager, à liker, à faire tout ça, à nous dire peut-être en commentaire quelle news vous avez apprécié le plus. Donc voilà, donc on rappelle en tout cas, actualité immédiate pour Fabrice et ses marques, c'est donc Westland qui arrive début avril avec de la tourbe américaine. Donc même s'il y a peu de bouteilles, je pense que on va essayer de goûter ça.
Avec grand plaisir.
Voilà, voilà.
Bonjour Frédéric.
Bah, merci beaucoup et à très vite pour le prochain épisode. Et n'hésitez évidemment, vous pouvez retrouver toutes les sources de toutes les news qu'on vient de voir là sur distinews.fr. À très vite, ciao ciao.
Ciao, bonne journée.